Alors pendant moins d'un an, le petit Bonaparte va se trouver dans cette école militaire de Paris. Il y entre en octobre 84, il en sort en 85, en septembre 85, pas dans un rang très brillant, il sort 42e sur 58, et le voilà qui, à 16 ans, est sous-lieutenant. Le visage qu'il a à ce moment-là, c'est le premier que nous possédons, celui que vous avez vu peut-être tout à l'heure sur le générique. C'est le premier visage sérieux, enfin, authentique que nous avons de ce garçon. Avec une note également de la direction, disant « hautain, féru d'amour propre, très ambitieux ». Vous voyez qu'il a pas mal changé entre Brienne, caractère soumis, et ce qu'il est maintenant. C'est vrai qu'il est un sous-lieutenant, un brillant sous-lieutenant qui va aller au régiment, dit de l'affaire à Valence. Régiment de l'affaire à Valence, si on regarde la carrière de l'officier Bonaparte, on s'aperçoit que c'est une carrière d'éternel permissionnaire. C'est ça que Bainville appelait le sérieux de l'armée d'Ancien Régime. Alors je vais vous donner des chiffres, pardonnez-moi de les lire parce que c'est très important. Il arrive à Valence, à son corps, le 3 novembre 85. L'été suivant, il demande un congé de 6 mois, à compter du 1er septembre 86. 6 mois. Mais il ne rejoindra que 13 mois plus tard, et il n'y aura pas de difficulté. Il rejoindra le 30 septembre 87. Le régiment est déplacé, il va à Ossun le 1er octobre 87, dès le début de novembre, alors qu'il est arrivé le 1er octobre. Il demande encore un congé de 6 mois. Donc il devrait rejoindre le 30 mars suivant. Il ne rejoindra que le 15 juin 88. Le 9 septembre 89, nouveau congé de 6 mois, qui en feront cette fois 16 mois. Il sera absent du régiment toute l'année 90. Il ne rejoindra que le 11 février 91. Et le 1er septembre 91, il redemandera un congé de 3 mois, vous entendez, donc retour obligatoire le 31 décembre, et il ne rejoindra jamais. On verra comment il va s'arranger. Le cas particulier de cet officier français, c'est qu'il déteste la France. Déteste la France pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'il parle mal le français, parce qu'il a un teint olivâtre, parce que les camarades le considèrent comme un métèque, parce qu'il est pauvre aussi, et parce qu'il n'a pas de relation, et qu'il voit ses camarades promis à des situations rapides parce qu'ils ont des appuis en France, tandis que lui a eu Marbeuf, et Marbeuf, maintenant, il n'est plus dans la course. Alors c'est un garçon qui est furieux aussi de penser que les occupants français viennent prendre toutes les places. Je vais vous apporter des textes là-dessus. Il ne faut jamais affirmer, surtout des choses violentes comme celle-là, sans des preuves. Il écrit à Gubico, qui est greffier des États de Corse, « Continuerons-nous à baiser la main insolente qui nous opprime? Continuerons-nous à voir tous les emplois, vous entendez, hein, tous les emplois que la nature nous destinait, tenus par des étrangers ?» Voilà ce que l'officier français, l'officier Bonaparte du régiment d'Aussonne, va écrire en marge d'un bouquin. « Féroces et lâches, les Français joignent aux vices des Germains ceux des Gaulois. C'est le peuple le plus hideux qui ait jamais existé. » C'est l'officier français Bonaparte qui écrit ça. Et le 12 juin 89, écrivant à Paoli, « Quand je naquis, la patrie c'est la Corse, hein, la patrie périssait. 30 000 Français vomis sur nos côtes, noyèrent la liberté dans les flots de sang. L'esclavage fut le prix de notre soumission. Accablés sous la triple chaîne du soldat, du légiste, du précepteur, nos compatriotes vivent méprisés, etc. » Si vous vous rappelez, je vous ai parlé, je crois, une fois de l'affaire Dreyfus. On avait cité la lettre de 1884 d'un certain officier Esterhazy qui, lorsqu'il était lieutenant de l'armée française, disait « Ma plus grande joie serait d'entrer dans Paris à la tête d'un escadron de houlans et de sabrer 100 000 Parisiens. » Le petit Bonaparte est à peu près du même genre. C'est un petit colonisé, excuse que n'aura pas Esterhazy, c'est un petit colonisé, un colonisé de fraîche date, qui se fait entretenir par la France, mais qui attend les moyens de l'égorger. Alors quel jeu va-t-il mener? Un double jeu. Quand il est en France, à son régiment, il est loyaliste, l'officier français. Mais quand il est en Corse, et vous avez vu qu'il y est tout le temps fourré, puisqu'il prend des congés perpétuellement, il est séparatiste. Ce double jeu, à partir de 89, va devenir ce qu'on peut appeler un double jeu au carré. Car il s'agit de voir l'attitude curieuse de Bonaparte à l'égard de la Révolution. Selon les opportunités, selon les uns, selon les autres, il est de gauche ou il est de droite. Quand il est à Valence, le voilà qui s'inscrit au club des Jacobins de Valence. Il est presque montagnard, il est très à gauche. D'autre part, il écrit une lettre contre un député qui s'appelle Buttafuoco, qui est un député corse de droite, de la noblesse. Et c'est à propos d'ailleurs qu'il dit « Heureusement que mon père est mort quand j'avais 17 ans parce qu'il m'aurait beaucoup gêné au moment de la Révolution. Mon père aurait certainement été un député de droite, de la noblesse, de droite, en Corse, et ça m'aurait horriblement gêné. » Alors il écrit à Buttafuoco une lettre très violente, très méprisante, où il crie à la fin « Ô Mirabeau, ô Lafayette, ô Robespierre !» Et puis, dans un article qu'il a fait, une espèce de discours qu'il a fait pour l'Académie de Lyon, 91, vous le voyez écrire ceci, « Contre les rois, il n'y a point d'homme là où les rois sont souverains. Contre les nobles, brigands à parchemin, dit-il, contre les moines, qu'il appelle des fakirs cloîtrés, contre les riches, dénonçant leur égoïsme et exaltant le mépris de l'or. Voilà l'aspect gauche du citoyen Bonaparte. Mais en même temps, il a un aspect de droite. Quand il était à Hausson, il a été obligé de participer, comme lieutenant, à des répressions. Ce que M. Bainville appelle des désordres vulgaires. Désordres vulgaires, ça veut dire des émeutes de la famine. Alors, ça lui est arrivé deux fois, en avril 89 à Sœur, en juillet 89 à Auxerre. Et à Auxerre, il a eu un mot extrêmement intéressant. Avant de faire tirer contre la foule, où il y avait surtout des paysans, il a dit que les honnêtes gens se retirent, que les honnêtes gens se retirent, je ne tire, moi, que sur la canaille. D'autre part, il a caché maintenant, vous pensez à ses camarades de régiment, il n'a pas dit qu'il s'appelait Napoléone, c'est ridicule. Alors il va signer Carlo, comme son père, Carlo Bonaparte. Mais il ne signe pas Carlo Bonaparte, il signe Carlo de Bonaparte. Dans cette lettre à Goubico, dont je vous parlais tout à l'heure, où il disait ce sont les Français qui prennent tous les emplois qui ne reviendraient normalement, il dit, et la plupart du temps, des gens de naissance abjecte. Est-ce que lui, c'est un aristocrate? Et quand en 92, il va se trouver à Paris et qu'il va voir les événements de juin 92, lorsque le peuple entre aux Tuileries, d'août 92, lorsqu'il verra le roi chassé, on connaît, c'est très célèbre, enfin c'est son camarade de Bourrienne qui l'a raconté dans ses mémoires, on connaît le mot qu'il a employé contre Louis XVI, il l'a appelé, vous savez, Kekolion, en fait. Ça veut dire convenablement qu'il est imbécile qui se laisse ainsi chasser. Il y a une note de lui, il avait 20 ans, 21 ans, que je tiens à vous lire, où il parle de son dégoût de tout. C'est une note intime, son dégoût de tout. Car je ne puis pas suivre la seule manière de vivre qui pourrait me faire supporter la vie. Qu'est-ce que c'est cette manière de vivre? C'est un officier sans relation, hein, sans appui. Oh, il a entouré son général Dutheil de toutes sortes d'assiduités, mais enfin, il n'a pas beaucoup avancé. Et qui se dit, qu'est-ce que ça va être ma carrière? Eh bien, l'avancement tous les 15 ans. Avancer tous les 15 ans, c'est rien, c'est pas sérieux. La seule manière de vivre qui me ferait supporter la vie, c'est l'opulence. Il faut savoir que c'est ça le but de ce pauvre, de cet officier pauvre qui s'appelle Bonaparte, qui convoite l'argent, qui convoite une grande situation. Et tout l'intérêt de l'étude que nous allons conduire ensemble, c'est de voir ses voies et moyens pour parvenir à cette opulence qui est son but. Alors en Corse, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut coller à Paoli, bien sûr. Paoli, c'est le grand homme. Il a été exilé, il est maintenant en Angleterre, mais enfin, tous les Corses se bénissent Paoli. Mais lui, il s'appelle Bonaparte. Et les Bonaparte, ils sont très mal vus de Paoli, puisque le père a trahi, puisqu'il est passé du côté de la collaboration. Alors vous voyez, toute la politique du petit officier Bonaparte, c'est de coller à Paoli, de flatter Paoli. Le 12 juin 89, il lui envoie une grande lettre contenant les insultes contre la France que je vous ai dites, et se terminant par la proposition d'écrire une histoire de Corse, où lui, le petit Bonaparte, mettrait Paoli sur un pinacle. Paoli répond très froidement. Le nom de Bonaparte est extrêmement hostile. Il lui a écouté, on verra, enfin, quand vous serez plus mûr. Le 30 novembre 89, voici, grâce à Mirabeau, l'Assemblée nationale qui amnistie Paoli, l'ancien résistant, et qui dit, ben, il va rentrer en Corse, et même on lui donnera une belle situation. Alors immédiatement, Bonaparte s'affole en se disant, comment est-ce qu'il va me recevoir? Il fait mettre une banderole sur sa maison, vive Paoli, vive la nation. Et le 30 juillet, le 17 juillet, le 17 juillet 90, lorsque Paoli arrive à Ajaccio, vous imaginez l'accueil délirant, et Bonaparte est au premier rang pour se faire admettre. Il y a des élections au directoire départemental. Il est trop jeune pour se présenter. Il va présenter son frère, Giuseppe, qui a abandonné toute idée ecclésiastique, qui voudrait faire de la politique. Mais Paoli n'en veut pas de ces Bonaparte. Et là, à Sainte-Hélène, Bonaparte, enfin Napoléon, racontera les blagues les plus énormes. Il nous dira, Paoli voulut me gagner, me serra sur son cœur, me dit que j'étais un héros, mais il ne put réussir auprès de moi. Élevé en France, j'étais français, et ne respirais que les idées françaises. C'est ce qu'il raconte en 1817, comme transfiguration, enfin comme transmutation du réel. Vous avouerez que c'est assez réussi, assez coquet. Si seulement Paoli l'avait serré sur son cœur, mais Paoli continue à le regarder de haut. Échec l'année suivante quand il essayera de présenter son frère à la législative. En 92, il essaye de devenir lieutenant-colonel de la garde nationale. C'est un gamin, enfin, il a 24 ans. Et en France, qu'est-ce qu'il est? Il est lieutenant. Oui. Et bien, le lieutenant va essayer d'être lieutenant-colonel. Il va y arriver par des procédés qui, semble-t-il, en France, sont difficilement acceptables, mais qui sont un peu plus connus en Corse, puisqu'on a le chiffre des voix qu'il a obtenues. Il a eu 522 voix sur 492 inscrits. Alors, ayant tripoté comme ça les urnes, il arrive tout de même à être lieutenant-colonel, et il va se déchaîner contre le colonel Maillard, qui représente l'État français à Ajaccio, parce que le colonel Maillard, au moment de Pâques 92, a fait un défilé, enfin une procession, quoi, dans les rues. Le colonel Maillard était catholique, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de rupture entre le catholicisme et la Révolution, et Napoléon, qui prend une attitude extrêmement anticléricale, vous avez vu, les fakirs cloîtrés, va lancer ses hommes de la garde nationale contre les soldats français, au nom de Paoli, pour essayer de s'emparer de la citadelle et faire du séparatisme. Sa situation est tellement mauvaise, c'est tellement dangereux, lui qui est un officier, en somme, déserteur, que Paoli lui dit, je crois que vous devriez aller à Paris pour essayer de régler votre situation. Alors il va à Paris. Il va à Paris, il obtient à Paris quelque chose d'inouï. C'est un officier déserteur. Et savez-vous que ce garçon, le 13 juillet 92, comme récompense d'avoir déserté, il va être nommé brusquement capitaine. Pourquoi ? Parce que nous sommes en juillet 92. Parce que c'est la guerre. Parce que dans son régiment, qui est le 4e régiment d'artillerie, sur 80 officiers au début de 89, il en reste 14. Alors on est bien obligé de faire des avancements. Et on se dit, il faut des soldats, puisque c'est la guerre. Mais lui, le petit Corse, la France, ça n'intéresse absolument pas. Il a signé, on nous représente ça assez souvent dans tous les documents sur lui, il a signé, comme tous les officiers français devaient signer, un texte du 6 juillet 1991 que voici. Je jure d'employer les armes remises en mes mains à la défense de la patrie et de mourir plutôt que de souffrir l'invasion du territoire français par les troupes étrangères. Il est envahi à ce moment-là le territoire français. La patrie est en danger, car nous sommes en juillet 92. Il s'en moque bien. Il va continuer son système uniquement corse. Il va obtenir encore un moyen de revenir en Corse. Sa sœur Maria Anna, elle la hissera son nom bientôt, elle se fera appeler Elisa. Elle était à Saint-Cyr. C'est encore M. de Marbeuf qui a obtenu ça. Elle était élevée à Saint-Cyr, cette fille. Et bien, il dit, oh, elle a 18 ans, dans une situation pareille, avec la Révolution. Elle ne peut pas traverser la France toute seule, cette fille, alors je vais l'accompagner. C'est un moyen qu'il trouve pour rentrer en Corse. Pour rentrer en Corse à la veille des élections de la Convention, parce qu'il espère que son frère Joseph va pouvoir se faire élire. Encore refus, encore raté, toujours Paoli qui s'oppose au Bonaparte. Alors nous assistons à ceci, que brusquement, le petit Napoléon et Buonaparte imite ce qu'avait fait son père. Le père avait trahi Paoli en 69, et lui en 93 va se retourner contre Paoli en se disant « Toutes les chances sont maintenant du côté de la Révolution, toutes les chances sont du côté de la Convention, je vais me déclarer l'ennemi de Paoli, parce que Paoli est en effet un réactionnaire. » Il va déchaîner son Luciano. Luciano, c'est son frère qui a 15 ans et demi et qui est resté en France. Il est à Toulon. Il est même président du club, non, secrétaire du club des Jacobins de Saint-Maximin. Luciano, spontanément, enfin poussé par lui, Bonaparte, le chef de famille, va écrire à la Convention pour dénoncer Paoli comme préparant une insurrection générale. Paoli l'apprend, pensez. Alors le voilà qui explose, on pouvait s'y attendre. C'est fils de Carlo, dit le vieux Paoli, né dans la fange du despotisme, élevé aux frais du pacha Marbeuf, maintenant associé aux brigands des clubs et aux massacres de septembre, et en particulier, dit-il, Questo Birbo Napoleone. Questo birbo, m'a-t-on dit, ces deux traductions, quand on parle noble, on dira qu'elle schnappant, et quand on parle moins noble, questo birbo, ça fera cette fripouille. C'est la rupture absolue entre Napoléon et Paoli. Il va maintenant s'appuyer sur les commissaires de la Convention, en particulier sur Salicetti. Il va essayer d'organiser une attaque d'Ajaccio par mer. Ça va foirer de la main, enfin, s'écrouler de la manière la plus pitoyable. Il est obligé de s'enfuir. Sa maison, sa petite maison de famille, est pillée par les paolistes. Et le 11 juin 93, il a donc 24 ans, emmenant toute la Smala, on s'en va, on va se réfugier du côté de cette France que l'on détestait, et il va prononcer la phrase que vous connaissez, « Questo paese non è per noi », « Ce pays n'est pas pour nous ». Ce pays, la Corse, son pays. Il gardera une rancune permanente, une rancune incurable, oui, on peut bien le dire, à la Corse. Jamais il ne s'entourera de Corse. Et en 1821, très peu de mois avant sa mort, le 24 février 1821, à Sainte-Hélène, il dira au maréchal Bertrand les paroles que voici. La Corse n'est pour la France qu'un inconvénient, une verrue qu'elle a sur le visage. Choiseul disait que si d'un coup de trident, on pouvait, à la Neptune, enfoncer la Corse sous la mer, ce serait un bon débarras. Et il avait raison, dit Napoléon. Et bien, telle est la malédiction posthume, ou presque posthume, de Napoléon sur cette île odieuse qui s'était refusée à lui servir de tremplin.